Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à commencer. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, retour sur une grève à l'école Joseph Lotte à Rennes. Deux interviews, d'abord pour annoncer le prochain jeudi des archives avec l'historien François Prigent, puis pour parler base nature et pédagogie de la subsistance avec les CMEA Bretagne, une association d'éducation populaire. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis une recommandation, une conférence débat sur les injonctions éducatives faites aux parents. Bienvenue dans l'arène. Comme chaque jour, on commence l'émission d'information locale avec l'info du jour, repérée dans les médias locaux ou parfois directement communiquée à notre radio. Aujourd'hui, retour sur la journée de grève du lundi 15 janvier à l'école Joseph Lotte, un établissement qui accueille environ 200 élèves dans le quartier Nord-Saint-Martin, ici à Rennes. Et si les personnels étaient en grève, c'était pour dénoncer leurs conditions de travail. En effet, depuis le mois de novembre, les équipes éducatives alertent sur le manque de moyens pour assurer l'inclusion des élèves. L'élève dit à besoin particulier. Trois postes d'AESH, quatre lettres pour accompagnant d'élèves en situation de handicap. Trois postes ne sont pas pourvus et aucun remplacement n'est prévu pour une quatrième personne absente depuis le 12 janvier. La requête, elle est simple, c'est que tous les AESH notifiés soient affectés. Une demande adressée par le syndicat CGT Éducaction 35 auprès du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Ça, c'était au mois de décembre. Une réponse est arrivée en fin de semaine dernière, dans laquelle le directeur estime que deux postes supplémentaires permettraient en effet de couvrir les besoins, mais que les services peinent à recruter au sein du bassin rennais. Une réunion d'information a lieu ces jours-ci pour tenter de trouver des candidats. En attendant, le syndicat CGT Éducation demande une audience rapidement avec ce directeur académique pour poursuivre le dialogue et devrait par ailleurs participer à la journée de mobilisation nationale annoncée pour le jeudi 1er février. Allez, après cette info du jour, place à une première interview. François Prigent, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes agrégé et docteur en histoire contemporaine, enseignant au lycée Chateaubriand ici à Rennes, mais aussi chargé de cours à l'université Rennes 2, et vous serez l'invité du prochain jeudi des archives. Rendez-vous jeudi 18 janvier à partir de 18h aux archives municipales, c'est situé avenue Jules Ferry ici à Rennes, pour une conférence sur le thème des soldats inconnus du Stade Rennais. Juste pour finir de vous présenter, vous présidez aussi le groupe Ouest Bretagne de la Société Française d'Histoire Politique, c'est une association qui réunit des chercheurs, c'est ça ?
Oui, c'est une structure qui rassemble les universitaires et puis aussi les doctorants et docteurs en histoire politique qui sont dans l'enseignement secondaire. Et donc, ça nous permet d'explorer des nouveaux territoires politiques, dont ceux du sport, notamment.
Comme on va en parler. Et vous êtes combien dans ce groupe ?
Alors, c'est une structure nationale, donc on est plusieurs centaines. Et puis à l'échelle régionale, on est une trentaine de chercheurs.
Vous menez aussi actuellement des recherches sur le thème sport et politique en Bretagne au XXe siècle. Ce qui nous amène au sujet du prochain jeudi des archives. Le point de départ, c'est le travail d'enquête mené par des lycéens de votre établissement. Vous leur avez lancé ce défi-là. Comment est-ce que vous avez retenu le sujet dont on va parler ?
Alors, pour la petite histoire, donc, on faisait un cours sur l'histoire des médias. J'ai l'habitude de faire venir en classe des journalistes pour pouvoir échanger autour de ces questions. Et à l'issue de la séance qui a été très productive, qui portait sur la question des médias à l'heure et à l'ère d'Internet, le collègue journaliste nous a lancé comme défi de pouvoir écrire potentiellement un papier. Alors il s'avère qu'on ne l'a jamais fait, mais qu'on s'est lancé dans cette enquête sur ce monument aux morts du Stade Rennais. C'est une pratique que l'on utilise classiquement, les fiches matricules et puis les monuments aux morts dans l'enseignement sur la Première Guerre mondiale. Et donc, là, l'idée, c'était d'essayer de lancer une petite enquête sur ces 30 noms qui figurent sur cette plaque.
Avec donc comme support cette plaque commémorative qu'on peut aujourd'hui voir aux abords du Stade Rennais, Route de Lorient. Un mot sur ce monument aux morts qui a été érigé en 1922 donc par le Stade Rennais Université Club, car un temps était relégué aux Pissotières. C'est vrai ça ?
Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, l'histoire de cette plaque reste encore un petit peu brumeuse, puisque on n'a pas trouvé de traces précises de l'inauguration de cette plaque. En 1922, lors d'un match international entre la Ligue de l'Ouest de football, donc c'est l'équipe de la région Bretagne, et puis le Luxembourg, il y a eu l'inauguration de nouvelles tribunes au Parc des Sports donc de la Route de Lorient. Le stade figure déjà depuis 1912 sur ce site actuel. Et donc, dans cette inauguration de tribune, on s'aperçoit que les deux capitaines déposent une gerbe devant cette plaque. Et donc, c'est la première occurrence que l'on retrouve. On n'a pas de trace, ni dans les archives municipales, ni dans les archives départementales, de mention avant. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que c'est inauguré.
Donc, une plaque qui a été un temps oubliée, mais réinaugurée il y a 10 ans, en 2013. Donc, vous avez lancé ce défi à une petite centaine d'élèves au cœur du lycée Chateaubriand, ici à Rennes, avec l'idée de retracer les notices biographiques de membres du Stade Rennais morts durant la Première Guerre mondiale. C'est finalement une petite portion des nombreux joueurs qui ont été mobilisés durant durant cette guerre.
Oui, alors c'est pareil que pour la plaque, cette mémoire a été engloutie. Alors, tout à l'heure pour la plaque, c'est au fur et à mesure des travaux finalement que cette plaque s'est retrouvée à l'intérieur du stade et a été redécouverte dans les années 80 au moment de la construction du stade. Mais là, c'est la même chose. Finalement, à chaud, au début des années 20, la trace de ces individus reste encore très présente. Donc, ils sont 30. Il y a à peu près 300 soldats sportifs du Stade Rennais qui ont été mobilisés pendant la guerre 14-18. Donc, on est sur des échelles de décès qui sont assez conformes à ce qu'on peut retrouver dans toute autre unité. Et donc, en effet, l'idée, c'était d'essayer de repartir de parcours individuels et de rédiger des notices biographiques. Alors, j'ai fait travailler trois classes de première sur ces questions-là. La première a défriché le terrain et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnages qui étaient relativement célèbres, dont Philippe Guisse, qui était un des présidents fondateurs du club, mais aussi, par exemple, Courte Manche. Près de notre lycée, il y a un gymnase dans lequel le club de volley du REC a longtemps officié, qui s'appelle la salle Courte-Manche, et en vérité ça vient du nom de Paul Courte-Manche, qui était un militaire et responsable du Stade Rennais, notamment escrime, et dont on a retrouvé toutes les traces, y compris le prénom, date de décès, date de mort, etc.
Ces traces, il a fallu aller fouiller où pour les retrouver? Est-ce qu'elles étaient riches, les archives auxquelles vous avez eu accès?
Oui, très riches. Alors on a utilisé principalement des sources numériques, puisqu'il se trouve que dans le cadre du centenaire de 14-18, toutes les fiches matricules, c'est-à-dire les dossiers militaires des soldats, ont été numérisés, alors qu'ils soient morts ou non. On a un site qui s'appelle le Grand Mémorial pour l'ensemble des soldats et Mémoire des Hommes pour les soldats qui ont été tués. Donc à partir de ces fiches-là, on a pu retracer ensuite des données généalogiques. On a utilisé également West Éclair et la Dépêche de Brest, donc l'ancêtre du Télégramme, qui sont accessibles en ligne.
Ainsi et l'ancêtre de West France pour West Éclair.
West Éclair, bien sûr. Et ainsi que toute une série de sources numériques, alors données généalogiques. Pour certains, ils ont été officiers de la Légion d'honneur, pour d'autres, professeurs d'université, etc. Donc, on a pu retracer comme ça leur propre parcours.
Il faut peut-être situer un petit peu et redire à quoi ressemblait le Stade Rennais au début du XXe siècle. Donc, déjà, son nom, c'était le Stade Rennais Université Club, puisque fondé par d'anciens étudiants. Avant le début de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas encore un club professionnel. Il vient d'arriver, donc, Route de Lorient, sur le lieu actuel.
Oui, donc, c'est un club qui est créé en 1904 suite à une fusion de clubs locaux. Et à partir de 1912, donc, le stade se déplace du parc de la Mabilais au terrain des sports. C'est en effet une section qui est encore omnisports, ce qui fait qu'une grande partie de nos soldats ne sont pas que footballeurs, ce sont aussi des rugbymen. Il y avait une équipe de rugby qui a été championne de l'Ouest, notamment. Il y avait des escrimeurs, il y avait des tennismen.
Des coureurs.
Il y avait des coureurs, des athlètes. Donc c'est une section omnisports. Il faudra attendre le début des années 30, 1932, pour que le passage au professionnalisme se fasse. Alors à Rennes, mais aussi à Saint-Servan, à Saint-Malo, qui fait partie donc, des premiers clubs professionnels, avec le président Isidore Odorico. Alors Odorico fait partie de ceux qui n'ont pas été tués pendant la Première Guerre mondiale, mais qui avaient été mobilisés.
Est-ce qu'on peut s'arrêter, alors on en a déjà cité quelques-uns, mais sur un ou plusieurs de ces soldats inconnus, celui dont le nom dit peut-être quelque chose aux auditeurs, c'est Robert Lebras.
Oui, donc c'est le fils d'Anatole Lebras. Alors ça, ça fait partie des choses que l'on a découvertes au fur et à mesure des recherches. Quelque chose de méconnu. Alors c'est un très jeune joueur à l'époque, qui est un peu la coqueluche du parc des sports. Il a 16 ans quand il joue en équipe première. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas encore de structure régionale totalement affirmée. Il faudra attendre les années 20 pour qu'il y ait l'institutionnalisation du football avec la division d'honneur qui est l'aristocratie du football régional. Là, la concurrence, elle se fait principalement avec d'autres clubs régionaux, dont Saint-Servant. Et donc Anatole Lebras, son fils, joue dans ce club. Et on a retrouvé des documents très émouvants, dont de la correspondance privée qui est conservée au CRBC de Brest, où Anatole Lebras raconte finalement le 11 novembre 1918 sa mémoire de la perte du décès de son fils. Parmi les autres personnages connus, on a aussi André Arthur, donc qui est le fils d'un universitaire très important dans le catholicisme social et qui est associé à Ouest-Éclair également et que l'on retrouve en tant que tennisman et qui a un parcours étonnant. Et puis il y en a d'autres qui sont très intéressants mais méconnus. On peut penser par exemple à Joseph Le Briquier, qui est un des seuls d'extraction populaire, vraiment avec des origines sociales très populaires marquées, et qui finit avec un doctorat d'économie. Donc, ce qui nous montre que le profil des sportmen avant 1914 est relativement varié.
Ce que vous avez aussi découvert avec vos lycéens donc du lycée Chateaubriand à Rennes, François Prigent, c'est que la plaque commémorative, elle comportait aussi des erreurs de nom, de prénom, et puis certains destins aussi avec des personnes qui en fait n'étaient pas mortes lors de la Première Guerre mondiale, qui sont décédées des années plus tard. Vous êtes allé dénicher des erreurs comme ça ?
Oui, tout à fait, avec les lycéens et les lycéennes, donc, qui se sont beaucoup investis là, dans cette enquête historique. On a en effet pu rectifier un certain nombre d'erreurs. Il y a certains prénoms qui ne sont pas les bons, d'autres où il n'y avait pas les prénoms qui furaient, d'autres où il n'y avait pas le nom complet. Et donc on a pu retrouver aussi des descendants qui ont pu nous apporter des archives familiales et des documents précis. Autre point qui est important, c'est que pour les deux tiers d'entre eux, on a réussi à mettre un visage, à trouver une photo dans la presse ou dans les documents privés ou dans d'autres mémoriaux, puisqu'une partie, par exemple, de ces soldats était passée par l'école Saint-Cyr. Alors, pas Saint-Cyr-Côte-Quidan, là où le site est situé actuel, Saint-Cyr-l'école en région parisienne, mais qui était la formation des élites militaires. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des apports, c'est que c'est un document historique qu'il faut resituer dans son contexte et avec un certain nombre d'erreurs. Alors, il restait dans l'ouvrage un soldat véritablement inconnu sur lequel on n'avait pas trouvé de traces tangibles et qui était un joueur de rugby et de water polo. Alors, il se trouve que depuis la parution de l'ouvrage et la fin des travaux des élèves, on a pu retrouver dans des archives en Algérie son parcours et donc de l'Algérie à Paris, on a pu resituer son parcours. Pour Osgood Davy, voilà, il est blessé gravement et on peut penser que au moment où la plaque se met en place, finalement, il a perdu des liens avec la distance. Il faut savoir qu'une grande partie des noms étaient retracés avec Folliard fils. Donc les Folliard père et fils étaient les présidents et secrétaires du club. C'était un joueur de rugby également et en fait, il entretenait une correspondance au front qu'on retrouve dans la presse locale, qui s'appelle les sportmen au feu. Et donc, sur Davy, il pense pendant un moment qu'il a peut-être été tué ou qu'il est disparu. Et donc, je pense que cette erreur se reproduit. Pour les prénoms, c'est pareil. C'est souvent une erreur qui est recopiée.
Mmh. Avec, par exemple, Jean Philippi, qui était en fait Luc Philippi, également donc footballeur, mais aussi rugbyman et champion de Bretagne du 400 mètres haies à cette époque-là. Vous avez évoqué un livre, puisque le projet des étudiants que vous avez accompagné, il a débouché sur un ouvrage de 250 pages et sur plusieurs vidéos, plusieurs courts-métrages. Pas de commercialisation de ce livre, mais on peut quand même aller le feuilleter dans plusieurs endroits de Rennes.
Oui, tout à fait. Il a été déposé donc, dans les grands sites publics, donc au Musée de Bretagne, au Champ Libre, aux archives départementales, archives municipales, dans les lycées évidemment également, au Stade Rennais, dans la Galerie des Légendes et aussi. Il sera bientôt accessible en open data. Il faut qu'on rectifie les petites coquilles qui ont pu figurer. Quant au court-métrage, parce qu'une partie des élèves faisait partie de la spécialité cinéma, ce sont des productions à hauteur d'élèves qui leur ont permis d'utiliser des documents d'archives. Alors on en projettera quelques-uns jeudi. C'était un travail qui avait été fait en partenariat avec le Stade Rennais et avec les jeunes du centre de formation au Dorico du Stade Rennais également. Et donc à la fin de l'année dernière, il y a eu une projection publique en présence des dirigeants du Stade Rennais autour de cela. Et donc on remercie évidemment le Stade Rennais de nous avoir aussi ouvert ses archives privées.
On redonne le titre de l'ouvrage « Les soldats inconnus du Stade Rennais en 1914-1918, une histoire au ras des balles ». Vous en gardez quel souvenir de ce travail qui a été mené sur l'année 2022-2023 il a vraiment inspiré les lycéens ?
Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est quelque chose qui nous a complètement dépassé, puisque au départ, l'idée c'était vraiment de retracer les fiches biographiques et puis de se lancer dans les petits courts-métrages. Il s'avère que la masse de documentation et tout l'intérêt du sujet nous a poussé à aller un petit peu plus loin, à contacter aussi des chercheurs spécialisés. On a par exemple une conclusion de la part de François Darrechaud-Carnora, qui est spécialiste de l'équipe de France de football et qui a essayé de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait analyser collectivement ces portraits. Et donc ça nous paraissait utile de faire un devoir de mémoire, parce qu'il y avait un besoin d'histoire sur cette question-là, mais de faire apparaître un devoir de mémoire en allant jusqu'au bout de la démarche. Et donc ça s'est échelonné en effet sur une année scolaire et demie.
Le détail de ce sujet, c'est à découvrir dans une conférence jeudi 18 janvier à partir de 18h aux archives municipales. On leur dit qu'ils sont situés avenue Jules Ferry, ici à Rennes, où vous serez présent. François Prigent, on le redit, vous êtes agrégé et docteur en histoire contemporaine, enseignant, on l'a compris, au lycée Chateaubriand, ici à Rennes. Et vous parlerez avec le public plus en détail sur le thème suivant, les soldats inconnus du Stade Rennais 1914-1918. Une histoire à côté de la plaque, c'est un rendez-vous qui est gratuit et sans inscription. Pour plus d'infos, il y a le site internet archives.rennes.fr. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues? Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté. Passer lentement, sous le ciel qui change ses habits, sans faire de beau. Puis le reste, en nous ça tourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon nom. Ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche.
Les suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
mardi, mais c'était De Beaux Dimanches par Marion Rampal et Bertrand Belin. Une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et à retrouver sur un album Oiselle qui sortira début février sur le label L'Autre Distribution. Ce sera le 6e disque pour cette songwriter marseillaise, sacrée voix de l'année aux Victoires du Jazz 2022. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'Info Locale de Canal B, à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0 pour ce qui est de la FM, mais aussi en ligne sur canalb.fr, où vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des émissions salariées et bénévoles, à écouter à tout moment depuis chez vous. On continue cette émission avec une seconde interview. Ewen Jean et Thibaut Radin, bonjour.
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 Je vous présente, vous êtes tous les deux membres des CMEA Bretagne, 5 lettres pour centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Thibaut, en plus de ça, d'être militant, vous coordonnez la base nature de Malensac dans le Morbihan. On va expliquer ce qu'est ce lieu. Les CMEA d'abord, une association d'éducation populaire qu'on retrouve ailleurs en France et qui intervient dans le champ de la formation des animateurs. On l'explique comme ça, Thibaut ?
Oui, tout à fait. C'est effectivement une association de formation de l'animation. C'est une association d'éducation populaire qui existe depuis 1936 et qui œuvre dans le champ de la formation, mais aussi de la recherche en pédagogie et qui s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, qui n'est pas très nouvelle puisqu'elle existe depuis au moins la fin du 19e siècle, mais qui s'oppose à l'éducation traditionnelle en ce qu'elle vise à rendre acteurs, actifs, les enfants d'abord, et puis l'ensemble des citoyens, citoyennes de la société.
Est-ce qu'on sait combien de personnes vous formez chaque année, et puis sur quel type de diplôme ? Le plus connu, c'est le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui n'est pas un brevet professionnel. Donc combien de personnes formées, et puis sur quel diplôme au-delà du BAFA ?
À l'année, je n'ai pas de chiffre exact, mais je dirais aux alentours, on peut côtoyer au moins 2000 stagiaires, je pense, à l'année, rien qu'en Bretagne. Beaucoup plus du coup au niveau des BAFA, BAFD, forcément, parce qu'on organise beaucoup de stages. Mais on propose aussi des formations longues à l'année, professionnalisantes, où c'est des promotions d'une dizaine à une quinzaine de personnes qui vont se suivre tout au long de l'année.
On peut donner les sigles un peu de toute la panoplie de diplômes.
Ouais, alors il y a le CPGEPS, c'est le premier niveau à l'animation, le BPGEPS, le DEGEPS qui amène à faire de la coordination de structure et le DESGEPS qui est le top du top dans l'animation.
L'histoire des CMEA, elle remonte à celle, vous l'avez dit Thibaut, du Front Populaire en 1936, période où arrivent les congés payés et les colonies de vacances. Est-ce qu'on peut expliquer un peu, développer sur cette histoire de méthode d'éducation active ? Ça veut dire que d'autres structures ne rendent pas ou pas autant l'enfant acteur du séjour que vous ne le faites chez les CMEA ?
Oui, alors avant tout, on va dire que le champ de l'éducation populaire et de l'éducation nouvelle s'est développé un peu en se différenciant de l'éducation traditionnelle, qui est celle de l'éducation nationale de l'école, qui vise à transmettre des savoirs aux enfants de manière assez descendante. Hein. On a l'image du professeur devant un tableau et une foule d'enfants assis qui boivent les paroles et les savoirs de l'instituteur. Là, on se place vraiment dans une perspective où on rend l'enfant acteur de ses apprentissages. Et donc, c'est par le jeu, par le fait d'être en action, d'être en mouvement, qu'on va acquérir un ensemble de compétences, de connaissances du monde. Et ça, il y a un certain nombre d'associations hein, qui sont dans cette perspective. On peut citer les CMEA, mais il y a aussi les Franca, la Ligue de l'Enseignement, les Éclaireurs et Éclaireuses de France, les SFOOT et d'autres qui sont là pour le coup des grosses associations. Mais il y a aussi des petites associations, des centres sociaux qui œuvrent à des échelles plus locales. Mais on a aussi, en parallèle, des acteurs du loisir qui sont plus dans la consommation d'activités et qui vont moins viser à rendre les enfants acteurs de leur séjour, à pouvoir choisir par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire et à avoir une attention à la pédagogie, à la manière de transmettre et aussi de vivre ensemble. Il y a d'autres structures qui ne sont pas du tout axées là-dessus, mais vraiment plus sur de la consommation d'activités diverses et variées.
pour faire vivre ce projet. Aujourd'hui, vous êtes combien dans les équipes des CMEA Bretagne ? Il y a des salariés, mais aussi des bénévoles, puisque c'est une association. Et puis, quelle est la dynamique ? On sait que certaines associations ont un peu connu des creux avec la crise sanitaire. Comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui ?
Eh ben, nous sommes une quinzaine dans l'association en tant que salariés. Et au niveau des militants et militantes, il doit y avoir une centaine de personnes qui gravitent autour de l'association. Des personnes qui sont très investies, comme d'autres qui viennent juste pour faire une action par an, comme cela. On est autour d'une centaine, plus ou moins.
Et sur la dynamique ?
Et ben, sur la dynamique, on est sur une dynamique plutôt montante. Sur, en tout cas, les personnes qui commencent à adhérer... aux méthodes de fonctionnement des CMEA.
Samedi 20 janvier de 14h jusqu'à 18h30, vous organisez avec les CMEA Bretagne un temps d'échange, alors à destination des professionnels du champ de l'animation, mais aussi des habitants curieux de votre démarche. Il y aura une projection d'un documentaire qui reste encore à confirmer. Il sera surtout question des bases nature. Comment on explique ce que c'est une base nature, Thibault ?
Alors une base nature, c'est un espace d'accueil de camps de vacances pour enfants et de formation de l'animation qui se déroule sur une ferme en milieu rural et donc des fermes en agroécologie qui pratiquent l'agriculture biologique. Et c'est un espace où on entremêle les pratiques éducatives et de vacances avec celles de la ferme. Les enfants vont par exemple pouvoir aller balader les chèvres ou traire les chèvres, aller chercher des œufs au poulailler, aller au potager chercher des légumes. Construire des cabanes dans la forêt, le tout avec une alimentation 100% d'origine biologique et de très grande majorité locale. Et ça a lieu de début mai à fin août, avec des formations d'animation en mai et juin et des camps de vacances l'été, en juillet et août, voilà, sur une structure éphémère et de plein air.
Ça fait une dizaine d'années que les CMEA, donc on le redit, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ils expérimentent ce type de séjour dans les Pays de la Loire. C'est plus récent en Bretagne, avec donc une base nature, c'est ça, hein, pour l'instant, installée à Malensac dans le Morbihan ?
Oui, tout à fait. Alors il en existe maintenant 7-8 en Pays de la Loire, et depuis au moins une dizaine d'années. Moi j'étais responsable de base nature, les Pays de la Loire parlent de base de loisirs. J'étais responsable là-bas et en arrivant en Bretagne, j'ai proposé d'en monter sur la Bretagne. Donc la première est en expérimentation depuis 2 ans. C'est la troisième saison que nous allons vivre cet été. L'idée est d'en monter éventuellement une par département de Bretagne dans les prochaines années.
On détaille peut-être un petit peu plus à quoi ressemble la base nature de Malensac. Donc on est à une grosse heure au sud-ouest de Rennes, pas très loin de Rochefort-en-Terre. Et donc vous l'avez dit, à la belle saison, vous investissez la ferme de Caringa, c'est comme ça qu'on prononce, avec des groupes de jeunes qui ont entre 3 et 14 ans et puis parfois aussi des adultes en formation.
Oui, alors la ferme maintenant, avant c'était effectivement Caringa, les habitants l'ont renommée Caringa. C'est une ferme qui a beaucoup de bâtiments agricoles. C'est une ancienne exploitation de volaille industrielle. Donc il y a beaucoup de hangars, mais il y a aussi 5 hectares de forêt avec des arbres centenaires et des, voilà, un très beau parc arboré. Il y a déjà des personnes qui se sont installées, une personne qui fait du fromage de chèvre, et donc il y a des chèvres qui pâturent dans les champs alentours. Il y a une centaine de poules, un potager pour le moment du collectif, et puis des maraîchers vont s'installer dans les mois qui viennent. Voilà, et donc on a des hangars dans lesquels on a un atelier bois, notamment pour faire de la construction bois, et un petit sous-bois pour construire des cabanes. Et l'avantage du lieu, c'est qu'il y avait au départ aussi des adjecos avec des douches qui fonctionnaient comme sas sanitaire pour que les personnes qui travaillaient dans l'exploitation puissent... être stérile avant de rentrer dans l'exploitation. Donc on réutilise, on réemploie en fait ces anciennes installations pour pouvoir accueillir du public et avoir quelque chose de confortable quand même pour que les enfants passent un séjour agréable et repartent pas non plus dégoûtés en ayant quelque chose de complètement différent de leur quotidien.
À quoi ressemble la vie quotidienne lors des séjours que vous organisez ? Vous dormez sous tente, il y a des activités nature, vous en avez déjà évoqué quelques-unes, hein, mais qui sont organisées, il y a des temps de cuisine, on détaille un peu ?
Alors le site comprend un espace, effectivement une petite clairière avec des tentes, donc on dort sous tente. À côté de cette clairière, on a deux grands barnums, un barnum cuisine pour faire à manger et un barnum de rassemblement pour manger et pratiquer des activités. Un peu plus loin, un petit hangar avec l'atelier bois, des toilettes sèches, autour, et puis un grand tif qui abrite une bibliothèque extérieure, un sous-bois juste derrière la clairière où on construit des cabanes. Et donc on accueille le lundi les groupes avec un grand jeu de connaissance des lieux, qui permet à la fois de se familiariser avec les espaces, passer le permis scie et marteau. Chaque enfant passe un permis scie et marteau qui lui permet ensuite, tout le reste de la semaine, de pratiquer en autonomie de la construction. Voilà, et puis ayant connaissance des lieux, que les enfants puissent ensuite se projeter sur la semaine. Et donc les semaines peuvent être vraiment très différentes en fonction des envies et du choix des enfants. Il y a des enfants qui vont peut-être juste passer leur semaine à lire si c'est ce qu'ils souhaitent faire, d'autres qui vont construire des cabanes toute la semaine, d'autres qui vont plutôt faire des jeux de ballon en extérieur, aller se balader. Et on propose des temps de sortie à l'étang du Moulin Neuf, qui est à 25 minutes à pied de la ferme. On propose aussi d'aller voir les chèvres avec l'éleveur de chèvres qui, du coup, présente un peu les animaux aux enfants. Si c'est possible, traire avec lui. Et puis, assister à la transformation du fromage. Et dans la journée, après, en termes de vie quotidienne, on a l'idéal, après, ça dépend aussi des groupes et de leur fonctionnement, puisqu'on accueille en fait des groupes avec leurs animateurs, animatrices qui viennent d'ALSH du Morbihan de manière large, et en fonction de leur projet, il peut y avoir des petites différences, mais on essaye d'avoir des conseils d'enfants pour prendre les décisions sur la vie collective, et des temps importants aussi pour faire à manger. Moi, je suis là aussi pour faire à manger avec les enfants et les animes, et former en fait aussi les animes sur la cantine collective extérieure, au bien manger, à l'équilibre des repas, et donc en utilisant que des produits bruts issus de la production des producteurs locaux. Hein, donc on a des légumes, de la viande, du fromage, de la farine, des œufs, tout ça vient de ferme à côté et de la ferme sur laquelle a lieu le camp.
Vous avez cité les ALSH, les accueils de loisirs sans hébergement, et vous développez donc sur place une pédagogie de la subsistance, ça veut dire quoi ?
Alors oui, c'est quelque chose que j'essaye en ce moment de mettre en forme, parce que je suis par ailleurs moi sociologue et chercheur dans le champ des sciences sociales, et on a actuellement tout un courant universitaire qui s'intéresse à la question de la subsistance dans une perspective écoféministe, on dit écoféministe. C'est de se réapproprier, de reprendre en main un peu nos activités qui nous permettent de vivre, qui permettent de produire nos conditions d'existence. Hein. On parle de la subsistance dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment comment on va pouvoir se nourrir, comment on va pouvoir se loger, comment on va pouvoir vivre ensemble, tout en respectant la nature dans laquelle on vit, les écosystèmes. Et donc d'essayer de vraiment concrétiser les grands termes qu'on utilise aujourd'hui de transition écologique, mais de pouvoir vivre en harmonie avec notre environnement naturel et social, et du coup de transmettre aux enfants cette attention portée au vivant, ces pratiques de reconnaissance de la faune et de la flore, quelles plantes nous permettent de nous soigner, quelles plantes nous permettent de nous nourrir, comment transformer les aliments, comment s'occuper des animaux. Voilà, enfin ça concerne du coup un ensemble de pratiques, et on va essayer de développer des outils d'éducation, des outils pédagogiques, pour que les enfants acquièrent cette attention et ces savoirs et savoir-faire qui, on l'espère, pourront assurer notre avenir, l'avenir de l'humanité et puis celle de la nature et de la planète.
Samedi 20 janvier de 14h à 18h30, on vous retrouvera les Séméa Bretagne pour un temps d'échange, donc tout l'après-midi, on le dit tout de suite, qui sera organisé dans vos locaux rennais au centre Alain Savary à Rennes, c'est tout près du métro Henri Fréville. Il y aura a priori une projection de documentaire sur le thème de l'éducation du dehors, et puis vous ferez le bilan des deux dernières années passées sur cette base nature en évoquant les perspectives à venir. L'idée, idéalement, dans le futur, c'est d'installer une base nature dans chaque département, c'est ça votre objectif ?
Tout à fait, oui. Pour pouvoir aussi proposer à d'autres, sur les autres territoires, puisque là, on ne peut accueillir que des groupes qui viennent de maximum une heure et demie de route de la base, et donc de pouvoir en avoir dans tous les départements.
Et sur les publics qui viennent participer à ces séjours aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à, avoir des groupes un peu mixtes sur des citadins et des urbains, sur les origines sociales, etc. Ou c'est justement un des défis pour les Séméa Bretagne de parvenir à ouvrir ces séjours au-delà de ceux qui sont déjà convaincus par la démarche ?
Alors, on a déjà des centres sociaux qui viennent, là plutôt du territoire, donc des enfants qui sont des communes rurales avoisinantes, mais on a des enfants avec dont les parents ont des revenus très divers, puisqu'on est sur des quotients familiaux au CAF et avec des aides pour les familles en difficulté financière. Donc ça, c'est déjà une réalité. On a une mixité sociale d'enfants. Par contre, On n'a pas encore de groupes qui viennent notamment des quartiers urbains, des villes là de Vannes et de Rennes. Et ça, c'est un des objectifs de pouvoir mettre en place des partenariats avec les quartiers, notamment voilà de Villejean par exemple à Rennes et enfin, voilà tous les quartiers qu'il peut y avoir dans la ville. C'est l'un des objectifs pour les années à venir. Pour le moment, ce n'est pas encore opérant.
Je vous représente tous les deux, Ewen Jean et Thibaut Radin des CMEA Bretagne, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui organisent un temps d'échange samedi 20 janvier à Rennes. Ça se passe de 14h à 18h30 dans les locaux rennais de l'association, donc au centre Alain Savary à Rennes, tout près du métro Henri Fréville. Un temps d'échange qui comprend normalement la projection d'un documentaire sur l'éducation du dehors et qui sera suivi d'un goûter buissonnier. Pour plus d'infos, il y a le site internet CMEA-Bretagne, CMEA ça s'écrit C-E-M-E-A, et il y a également une page Facebook dédiée à cette association d'éducation populaire. Merci beaucoup.
Merci. Merci de nous avoir reçus.
Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'un forêt qui pousse.
En silence, sans laisser de traces à part petits pas quand on danse. Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit pouce à semer caillou dans la forêt dense.
De toute évidence, tout ici pousse en silence. Et quand on y pense, petit à petit tout prend son sens.
Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit caillou semé partout par petits poussets.
De toute évidence, tout ici pousse en silence.
Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go on, on, on. We go on, on, on. You see, bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go on, on, on. We go on, on, on.
Yeah, bad boys always move in fucking silence. We don't need no fucking violence. Yeah, there shall be no announcement. Yeah, it's Wood versus Iron. T'es l'arbre qui tombe et nous la forêt. T'es la photo, nous la story. T'es le collier de perles, nous l'île de Corée. T'es la façade et nous l'ineffaçable. T'es facile, on est classique. T'es passif, on se fatigue et sache que c'est pas sale. C'est pas le même poids, on lutte pas dans la même salle. Chez toi c'est le bal et chez nous c'est où est Charlie. T'as ceux qui gèrent et ceux qui veulent tout péter. Au fait divers, on préfère ceux qui taffent même tout l'été. So move in fucking silence, please. We don't need no fucking violence. À quoi bon crier, tirer à qui profite le crime. Tu peux crier pour leur billet, nous les nôtres on veut t'imprimer. Capiche.
Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go oi, oi, oi. We go oi, oi, oi. You see, bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go oi, oi, oi. We go oi, oi, oi. You see, oi, oi, oi.
We're badass and good like a Braxis. Who put what pilots in the cockpits? Atlas shrugged and I tilted the axis. The system no try give we access. How they put our faith on a blacklist? With the feelers repeat what we practice. Governments are day in someone's pockets. Live life outside the boxes. Life inside there is toxic. Cops sit and run and I get away with murder. It's madness. Oh madness, yo. Hand me my motherfucking cutlass. Can't see the wood for the trees, yo, I got this. Chop it and move it in keys like we Coptic. Small axe falling tree, you drop it. See bad boys move in silence. I pray to the one that is timeless. They misinterpreting kindness. Only diamond sharpen a diamond. Only diamond can sharpen a diamond. See bad boys move.
Only diamond can sharpen a diamond. Only diamond sharpen diamond.
Bad boys move in silence,
you know.
Bad girls move in silence. We go oi, oi, oi. We go oi, oi, oi.
You see,
bad boys move in silence,
you know.
Bad girls move in silence. We go oi, oi, oi. We go oi, oi, oi.
Sur Canal B avec le morceau Move in Silence. C'est le choix musical d'un de nos deux invités qu'on vient de quitter, Thibaut Radin des CMEA Bretagne. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album anniversaire, We Are 10, The Birthday Presents. C'est sorti en 2017 à l'occasion des 10 ans du label Heavenly Sweetness. Et alors Guts, eh bien, c'est en fait un pseudonyme, le pseudonyme de Fabrice Henry, beatmaker français et producteur de hip-hop et de funk que vous venez d'entendre dans La Reine sur Canal B, émission qui se raconte à travers une newsletter, j'en retouche un mot de temps en temps, le courrier de La Reine, c'est un document que je vous envoie chaque vendredi avec des reportages, des interviews et des infos mises en lumière, une façon de vous tenir au courant du programme de l'émission d'information locale en évitant les réseaux sociaux. Et on va terminer cette émission avec l'habituelle recommandation du jour. À chaque fois en fin d'émission, des conseils de choses à se mettre dans les oreilles, à voir, souvent à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce une conférence proposée par la ville de Rennes et la Ligue dans l'enseignement d'Ille-et-Vilaine. Il se trouve que je vais animer ce temps et qu'un podcast sera diffusé dans cette émission d'ici quelques semaines. Donc vous en entendrez parler d'ici peu de temps. Mais je vous en parle finalement comme à chaque atelier proposé par la municipalité dans le cadre de son PEL, son projet éducatif local. Un projet qui a été adopté dans une version renouvelée début 2023. Et c'est dans ce cadre que sont organisés des ateliers sous forme de conférences-débats en compagnie de chercheurs qui apportent donc un éclairage universitaire sur des enjeux éducatifs. Jeudi 18 janvier à 18h30, le rendez-vous est donné à la maison de quartier Villejean pour une conférence en compagnie de Claude Martin. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et spécialiste des politiques de soutien à la parentalité. Il fait en plus de ça partie de ceux qui ont claqué la porte de la commission parentalité lancée par la ministre du moment, Aurore Berger. Faites comme si, pas comme ça, être parent aujourd'hui en train conjonction et accompagnement. C'est le thème qui sera exploré durant 2 heures ce jeudi. En rappelant d'abord que l'idée d'éduquer les parents à exercer leur propre rôle n'est pas nouvelle, mais avec l'émergence de la notion de parentalité, puis de soutien à la parentalité à la fin du XXe siècle, un nouveau souffle a été donné à cet enjeu politique et social, avec une grande question: comment se repérer en tant que parent face à ce foisonnement d'injonctions et de politiques paradoxales, voire controversées? Un temps d'échange est prévu avec le public à l'issue de la conférence avec Claude Martin. L'entrée est libre et pour plus d'infos, il y a le site internet laligue35.org. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.